Le Conseil de sécurité prie le gouvernement israélien d'assurer la sûreté et la sécurité des habitants des zones où des opérations militaires ont eu lieu et de faciliter le retour des habitants qui se sont enfuis de ces zones depuis le déclenchement des hostilités. Article 1 de la résolution numéro 237 de l'ONU du 14 juin 1967.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Le vote de l'ONU le 29 novembre 1947 avait prévu de créer deux États en terre de Palestine. Un État juif, État d'Israël, et un État de Palestine. Cette résolution aussi de l'ONU prévoyait également de faire de Jérusalem une zone internationalisée. Le problème, c'est que cette résolution 181 n'a pas vu le début de l'application. La première guerre israélo-arabe de 1948-49 a permis de sauver Israël, mais a détruit ce qui était prévu pour l'État palestinien. La Jordanie a occupé une partie de la Cisjordanie, ainsi que la zone est de Jérusalem. Les Égyptiens se sont emparés de Gaza, et quant à Israël, eh bien, la puissance victorieuse a pu occuper ce qui restait de l'État palestinien. En 1967, la situation est tendue, mais plutôt calme, depuis quelques années. En effet, depuis 1956 et la crise du canal de Suez, il n'y a pas de grand conflit armé entre, d'une part, l'État d'Israël et les puissances arabes. Certes, il y a une rhétorique guerrière, des incidents, comme des raids israéliens sur le camp palestinien de Samoa en Jordanie ou sur le Golan. Mais globalement, la situation est plutôt calme. Mais au mois de mai 1967, la situation tendue se transforme en crise. Le 12 mai, Moscou, allié des pays arabes, fait savoir à l'Égypte qu'Israël s'apprêterait à lancer une offensive préventive. Le 14 mai, le président Nasser décide alors de déplacer des troupes égyptiennes vers le Sinaï, où se trouvent environ 3400 casques bleus de l'ONU qui forment une zone tampon depuis 1956 entre l'Égypte d'un côté, Israël de l'autre. Et le 16 mai, Nasser met une pression supplémentaire sur ces casques bleus en demandant à l'ONU de retirer ses troupes. Le retrait est décidé par le secrétaire général de l'ONU, Outan, le 19 mai. Or, cette décision est lourde de conséquences, parce qu'elle peut faire croire à Israël que le président égyptien a l'intention de lancer une attaque préventive contre Israël. Cette situation est d'autant plus aggravée que le 24 mai, les Égyptiens décident de faire le blocus du détroit de Tyran, qui permet aux Israéliens d'avoir un accès à la mer par le port d'Eilat. Indéniablement, le bruit répandu depuis Moscou que Israël allait faire une attaque préventive a transformé la situation en une situation de crise. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Abba Eban, fait le tour des grandes puissances occidentales. Il est à Paris le 24 mai, à Londres le 25, à Washington le 26. À chaque fois, les dirigeants occidentaux, et tout particulièrement le général de Gaulle, prônent le calme et de ne pas déclencher de guerre dans la région. Car ce que redoute par exemple le général de Gaulle, c'est que certes, il est fort probable que les Israéliens remportent la guerre, mais qu'ensuite, le phénomène de territoire occupé pose des problèmes pour le futur de la région. À Tel Aviv, le gouvernement hésite. Faut-il finalement se rendre à l'avis des militaires, les généraux Rabin, Sharon, Weizmann, qui prônent la solution militaire préventive, alors que le Premier ministre, Lévi Eshkol, est plutôt prudent. Ce qui va décider les Israéliens à précipiter les opérations militaires, c'est que le 30 mai, Nasser reçoit le roi Hussein de Jordanie. Et à Tel Aviv, on a le sentiment qu'est en train de se constituer une alliance contre eux et qu'il faut donc essayer de prévenir une éventuelle attaque. Le 1er juin, Le premier ministre israélien Eshkol forme un gouvernement d'union nationale, où on retrouve Moshe Dayan au ministère de la Défense. Et le 4 juin a lieu une réunion du cabinet israélien qui décide d'attaquer par surprise, en particulier l'Égypte. Le 5 juin, les Israéliens obtiennent un succès considérable. En effet, ce jour-là, ils parviennent, en contournant les radars égyptiens installés sur le delta du Nil, de contourner les défenses égyptiennes et de détruire au sol quasiment toute la flotte aérienne de l'Égypte. 416 avions égyptiens sont détruits contre seulement 26 côté israélien. Ainsi, dès les premières heures de la guerre, Israël a la maîtrise du ciel. Désormais, la facilité est plus importante, même si des combats importants auront lieu au Golan ou à Jérusalem. Une offensive terrestre a lieu dans le Sinaï. La Jordanie, qui a commencé à bombarder les positions israéliennes, est à son tour attaquée. Le 7 juin, Jérusalem est prise par les Israéliens et le drapeau de l'État hébreu flotte sur le mont du Temple ou esplanade des mosquées à 10h15. Le 8 juin, les Israéliens sont maîtres de la Cisjordanie, appelée aussi Judée-Samarie du côté israélien, et ils sont sur le canal de Suez. Les 9 et 10 juin, les Israéliens s'emparent du Golan contre les troupes syriennes. Ainsi, en 5 jours, le triomphe militaire est absolu et on peut entendre l'hymne israélien chanté le long du mur des Lamentations. Mais que peut-on tirer comme conclusion et comme conséquence de cette victoire de la guerre des six jours ? D'abord, sur le plan humain et matériel, la victoire est totale du côté israélien. L'armée israélienne compte 679 morts, a perdu 40 avions et environ 130 chars. Mais côté arabe, les pertes sont largement supérieures. On estime les pertes égyptiennes à environ 25 000 morts. Il y a également 6 000 prisonniers. Et au total, les puissances arabes ont perdu 1100 chars et 550 avions. D'autre part, les Palestiniens, qui vivaient en Cisjordanie et à Jérusalem, ont choisi bien souvent la fuite. On estime à environ 200 000 Palestiniens qui se sont installés en Jordanie et au Liban. De même, des milliers de Syriens qui vivaient sur le Golan ou aux alentours du plateau du Golan ont fui la région. Sur le plan stratégique, Israël aussi remporte une indéniable victoire. La frontière israélo-égyptienne se rétrécit de 265 à 98 km. Le Caire n'est seulement qu'à 130 km des forces israéliennes et Damas à une soixantaine de kilomètres. D'autre part, en maîtrisant le Golan, Israël réussit à prendre d'importantes réserves d'eau, éléments essentiels évidemment dans la région. D'autre part, sur le plan géopolitique, les Israéliens annexent la bande de Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem Est. De même, ils occupent le Sinaï et le Golan, et d'ailleurs le Sinaï est annexé officiellement en 1941, tout comme Jérusalem est déclarée par la Knesset en 1980, capitale éternelle de l'État d'Israël. Mais les conséquences sont également internationales. En effet, il faut, pour Israël, gérer désormais 1 million de Palestiniens de plus qui vivent sur les territoires occupés ou évidemment libérés selon le camp auquel on appartient. Et il est indéniable que le sentiment national palestinien a grandi vis-à-vis, d'une part, de l'incurie des puissances arabes qui ont été incapables de résister militairement à Israël, mais également vis-à-vis du sentiment d'humiliation que les Palestiniens connaissent au regard de l'occupation israélienne. Autre élément international, les Arabes sont déçus de l'Union soviétique, qui finalement n'a guère soutenu leur combat. Alors qu'inversement, les liens se renforcent entre Israël et les États-Unis, et d'ailleurs, ceux-ci vont devenir les principaux pourvoyeurs d'armes de l'armée israélienne, alors que pendant longtemps, ce fut la France qui vendait des armes à l'État d'Israël. Autre élément important, c'est à l'échelle du monde musulman. La conférence islamique de Khartoum, des 29 août au 1er septembre 1967, insiste sur trois points. Il ne faut pas reconnaître Israël, il ne faut pas négocier avec Israël, il ne faut pas faire la paix avec Israël. Enfin, la résolution de l'ONU du 22 novembre 1967, numéro 242, qui prévoyait l'évacuation de territoires ou des territoires occupés par Israël, est votée, mais n'a jamais été véritablement appliquée. On peut dire que la victoire israélienne est indéniable, mais qu'elle fut, selon l'expression de l'historien Pierre Hazan, une victoire empoisonnée, parce que finalement, elle ne régla en rien la question palestinienne, qui est toujours, aujourd'hui encore, ouverte au Moyen-Orient.